Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur RLP dans le numéro 108 de Famille, justice, enfance avec Stéphane depuis Périgueux et le Périgord. Nous aurons aujourd'hui la troisième et dernière partie de l'entretien avec Sophie de Mijola, qui a été absolument adorable en nous accordant cette entrevue de plus d'une heure que nous avons découpée en trois émissions. Et aujourd'hui, dans cette conclusion, nous aurons notamment un moment très fort. La réponse est-il, faut-il garantir un accès à l'enfant à ses deux parents? La réponse de l'expert, du psychanalyste, du psychologue est absolument fondamentalement oui, même si ceux-ci se disputent et se critiquent mutuellement. Nous terminerons l'émission avec un témoignage de Tanguy Legrand qui nous montrera encore quels sont ces préjugés qui existent dans la justice et la difficulté que nous avons tout simplement à obtenir l'application des lois, uniquement l'application des lois, sans idéologie, sans parti pris, dans l'environnement familial. C'est quand même un combat qui ne cesse d'être mené et qui semble n'avoir aucune fin. Avant, bien évidemment, d'avoir un peu plus de fraîcheur avec la chanson de la semaine. Mais tout d'abord, les actualités, il y en a quelques-unes, dont une petite colère contre CNews et Pascal Pro. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Petit aparté pour dire que je viens d'apprendre que les locaux historiques et traditionnels de l'association SOS Papa National à Paris n'existent plus. Les permanences se font désormais, je crois, une fois ou deux fois par semaine dans un bar, avec quelqu'un qui prête une partie de sa salle en échange de l'achat de consommation. La mainmise du président Latizeau sur SOS Papa National se sera donc traduit par l'arrêt de l'activisme, le rejet de la cause des pères par l'intégralité des politiques et des médias français, l'abandon des locaux traditionnels et la fin des permanences qui ont peut-être sauvé la vie de plusieurs milliers de personnes de notre pays. Bravo, c'est magnifique. Il y aura une assemblée générale à l'automne prochain, si celle-ci est tenue, et si pour une fois il n'y a pas un boxeur qui tient la porte d'entrée pour empêcher les gens de rentrer et de voter, c'est donc peut-être le moment de réactiver vos cotisations et de faire en sorte qu'on puisse avoir un véritable bureau, parce que toutes ces initiatives individuelles que nous vous montrons de manière régulière n'existent que parce que, en fait, cette association ne fait pas le boulot et que c'est pour ça, en fait, que nous sommes en train d'essayer de le faire, parce que là-haut, c'est le désastre. Et ça fait longtemps que ça dure.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Enchaînons avec une intervention de la semaine dernière sur CNews par Pascal Pro. Celui-ci était face à Marlène Schiappa et, comme d'habitude chez ce monsieur, le léchage de babouche, la tentative absolue de plaire en racontant absolument n'importe quoi. Et si on l'écoute, ce sont toujours les hommes qui se comportent mal durant les divorces. Bravo monsieur, écoutons-le, je vous dirai après ce que l'on pense de vous.
C'est le livre de Marlène Schiappa, et puis un petit combat, ou un grand combat, je ne sais pas, je vous en ai d'ailleurs parlé plusieurs fois, parce que ça me frappe. Dans les divorces, les hommes ont des droits, ils n'ont aucun devoir. C'est-à-dire que lorsqu'ils doivent récupérer les enfants pour les vacances ou pour le week-end, tel que c'est inscrit dans le jugement, et bien au dernier moment, ils peuvent dire ben non. Il est 15h, 17h, le vendredi, puis ils préviennent la mère, ils disent ben non, finalement je ne prends pas les enfants ce week-end. Ce qui est intéressant pour la mère qui vit seule, et parfois, et qui doit s'organiser. Et bien ça, ça doit être pris en compte peut-être.
C'est vrai, on en avait parlé ensemble. Porter, vous m'en aviez déjà parlé, comme quoi vous êtes plus féministe qu'il n'y paraît. Et sur le fond, vous avez tout à fait raison, c'est vraiment un sujet sur la manière, mais ça rejoint ce qu'on évoquait sur le congé paternité, la place des pères,
exactement,
la responsabilité qu'on donne aux pères ou qu'ils se donnent.
Audrey Misiraka,
c'est fini. Quand les jugements ne sont pas respectés, hein, parce que beaucoup de juges sont eux qui
c'est fini, Joseph, on a 4 minutes de retard.
Pourquoi ça passionne,
Audrey? Oui, je vous excuse pas. Audrey Misiraka, non, c'est les hommes qui se conduisent mal dans 9 cas sur 10 dans les divorces. Alors ça, franchement, c'est empirique autour de moi. Ceux qui ne payent pas les pensions alimentaires, etc. Franchement, c'est toujours les hommes qui se conduisent le plus mal.
Des rôles de fréquentation autour de
moi. Eh ben, non, j'entends des femmes qui me le disent. Mais bon, je ferme la parenthèse. Audrey Misiraka.
Il ne faut pas s'étonner, après de telles interventions en heure de grande écoute, que nous avons ensuite des Thomas Legrand, voire en fin d'émission, qui vivent les situations qui vivent dans leurs tribunaux. Il y a quand même un effondrement dans notre pays de la qualité de journaliste ou d'animateur de débat, avec des personnes qui s'érigent en censeurs, qui interdisent la riposte, la contradiction et qui imposent leur point de vue comme on vient de l'entendre. Enfin, quand on entend ce qu'on entend et qu'on voit ce qu'on voit, on a parfois envie de lancer des pétitions pour interdire l'accès au débat intellectuel des journalistes sportifs.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors, sur RLP, on va aborder encore une ou deux questions. Thierry Lavergne, qui est un pédopsychiatre psychanalyste qui intervient régulièrement sur notre antenne, nous disait que la plus grande souffrance de l'enfant était la dissonance éducative, c'est-à-dire le fait qu'il n'arrive pas à s'entendre dans son éducation. Est-ce que vous confirmez ?
Oui, alors je ne sais pas si c'est la plus grande, mais en tous les cas, oui, c'est très pénible. C'est très pénible, effectivement, parce que du coup, il n'y a plus de possibilité de dénoncer une règle si la règle est immédiatement combattue par l'autre parent.
Oui. Il disait que ça pouvait aller jusqu'à remettre en cause l'envie de grandir.
Oui, l'envie de grandir, effectivement, ou au contraire, l'idée de grandir le plus vite possible pour sortir de cette affaire.
Oui, de s'évader, de partir.
Oui, oui.
D'où le cas des gens qui arrêtent l'école très tôt et puis qui se trouvent un refuge et qui deviennent autonomes extrêmement tôt pour s'affranchir d'une ambiance à la maison. Oui, ça peut générer ça, oui.
Oui, absolument. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, là, maintenant, la question, cette dissonance éducative, c'est pareil, d'où vient-elle ? D'où vient-elle ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les parents, qui bien évidemment, par définition, sont différents, ils n'ont pas eu la même enfance, mais en tant que couple, ils ont bien dû, à un moment donné, je dirais, reconnaître ou admettre quelque chose de l'autre ? Comment se fait-il qu'avec l'arrivée de l'enfant, ça ne puisse pas se poursuivre ?
Ça, c'est le monde occidental qui est comme ça. Je veux dire, si on va en Asie ou en Afrique, la cellule familiale est tribale, dure sur plusieurs générations dans la même maison, est beaucoup plus présente. Tandis que chez nous, on nous explique régulièrement à la télé que l'amour, ça dure 3-4 ans, maximum 5-6. Et nous vivons une société de recomposition avec des gens qui se marient, qui divorcent parfois 2 fois, 3 fois dans une vie. Donc, encore une fois, c'est systémique, ça.
Tout à fait, tout à fait. Et de la même manière aussi, la présence des grands-parents est loin d'être évidente. Les grands-parents sont souvent suffisamment jeunes pour être encore eux-mêmes en train de travailler ou eux-mêmes par ailleurs chargés de leurs propres parents. Enfin bref, tout ça n'est pas facile. Tout ça n'est pas facile et ne peut se faire que par petites touches. Ce qui me paraît important, j'y reviens encore une fois, c'est au moins de savoir ce qui est juste et de le viser. On ne l'obtiendra pas forcément, on ne l'obtiendra certainement pas à tous les coups, mais au moins que ce soit en effet un objet de visée.
C'est la douleur de l'enfant devant le conflit parental, en fait, qui est au cœur de la question.
Alors, la douleur de l'enfant dans le conflit parental, oui, bien sûr, mais en même temps, l'enfant sait très bien ce que c'est que se disputer. Donc,
oui, c'est oui. Vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Donc, il peut très bien comprendre, en effet.
Les amitiés très fortes qui se font et se défont dans la cour de récréation, bien sûr.
Voilà, oui, bien sûr. Voilà. Et il peut très bien aussi comprendre qu'on peut être injuste, etc. C'est pas... Là, il y a une désidéalisation des parents, mais qui est faite, je dirais, très tôt et très vite.
Mais, en fait, il y a quand même... Enfin, nous, on le voit, de dire des parents qui se battent, ce sont des enfants qui sont endommagés, quand même. On s'en rend compte assez facilement.
Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
Alors, si jamais l'enfant est autant endommagé par les conflits, est-ce que les intervenants, à votre connaissance, que ce soit dans les IRTS, Instituts Régionaux des Travailleurs Sociaux, c'est-à-dire les écoles qui forment les assistantes sociales et les éducateurs spécialisés, à l'ENM, l'école de la magistrature, donc qui forment les magistrats, on va faire une petite parenthèse, juste familiale, c'est pas un choix, on est affecté en septembre en fonction de ce qu'il y a ailleurs, contrairement à juge des enfants, juge des divorces, c'est pas une fonction choisie. Est-ce que ces intervenants, qu'ils soient dans le social, dans la justice, les pédiatres et autres, les professeurs de maternelle, d'école primaire et tout, sont-ils vraiment formés pour gérer ce que notre monde moderne de recomposition produit auprès des enfants ?
Alors là, vous me posez une question à laquelle je n'ai pas de réponse, que je n'ai jamais, jamais intervenu moi en tant que psychanalyste ou professeur de psychologie dans ce domaine. J'ai travaillé avec des avocats, en revanche.
D'accord. Vous avez produit des écrits, vous avez eu des étudiants.
Oui, tout à fait.
Vous êtes dans une revue, donc vous avez une audience, donc vous pouvez avoir des retours par rapport à cette audience parfois.
Tout à fait. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense en effet que le monde de la justice doit tout à fait être en interaction avec le psychologique d'une manière générale. Et ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé moi-même beaucoup. Et comme je vous disais, j'ai travaillé aussi j'ai des collègues qui ont travaillé avec des magistrats et je pense que c'est nécessaire, c'est tout à fait nécessaire. Précisément parce que sans quoi on arrive à des aberrations où il y a des expertises avec des termes un peu compliqués que l'avocat ou le magistrat ne comprend pas forcément complètement. Et donc il y a en effet une nécessité d'un travail en commun. Moi, c'est pour ça que justement je pense que les interactions de la psychanalyse à cet égard sont tout à fait importantes. J'ai écrit d'ailleurs un livre à ce sujet où je m'étais intéressée à des cas, alors là, extrêmes, hein, bien sûr, de parricides ou des cas de pères, c'était des pères qui avaient tué leur enfant.
Oui, on en a malheureusement eu. Quand on regarde les actualités, on voit qu'il y en a, ça peut arriver parfois.
Oui. Oui.
Un parent, de manière générale, un parent peut parfois tuer son enfant.
Ouais. Tout à fait. Donc, je crois qu'il faut, en effet, une intervention.
C'est le syndrome de Médée, je crois, qui a son paroxysme,
oui,
c'est ça ?
Oui. Une intervention ou une possibilité d'intervention du psy au moment où des décisions importantes doivent être prises. Mm-hmm. Pas simplement dans l'expertise.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille. Justice, enfance.
Par rapport à tout ce tableau qu'on vient d'évoquer, hein, à votre avis, si on prend un petit peu de hauteur et qu'on regarde de loin, on a l'impression, au niveau de la société, que la place du père est extrêmement attaquée. On a eu Jean-Pierre Winter qui est venu sur cette antenne, qui a fait un ouvrage il y a quelques temps dessus. On a eu Raphaël Delpart, on en a eu d'autres qui sont passés, nous disant qu'il y a une volonté institutionnelle d'affaiblir la famille contemporaine et la position du père parce que le patriarcat, à une époque, aurait été quelque chose d'extrêmement néfaste. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on est vraiment, actuellement, nous, en France, en Occident, d'affaiblir cette position paternelle ?
Non, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas confondre la position paternelle et le patriarcat. C'est une structure qui a existé dans un temps historique et pour des raisons données, raisons économiques notamment. Moi, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure à propos de la position du père. Parce que le père, c'est d'abord le soutien de la mère au tout début.
Oui.
Soutien de la mère qui va lui permettre d'être une bonne mère. Et vous parliez des femmes seules, je pense que c'est très difficile pour elles d'être des bonnes mères, précisément parce que ce soutien manque. Deuxième facette, si vous voulez, du père, c'est aussi celui qui est l'incarnation de l'ordre, mais pas au sens patriarcal. Il est celui qui va soutenir l'ordre que la mère instaure dans la vie de l'enfant. Et puis, il y a un troisième aspect qui est la co-acceptation avec la mère de la responsabilité pour l'existence de l'enfant. Et cette co-acceptation, c'est précisément elle qu'on va retrouver au moment des divorces.
D'accord.
Au moment des partages.
À partir de quel âge peut-on dire que le père peut... Enfin, si jamais... À partir de quel âge peut-on dire qu'il faut cesser de privilégier la mère et que le père peut être un éducant éventuellement ? Faisons une hypothèse. Au début, il faut vraiment privilégier la mère avec le père qui encourage les autres.
Il l'est tout le temps. Ouais. Il l'est dès le début. Il l'est dès la naissance. Winnicott disait de manière un peu amusante que les pères peuvent aussi être de bonnes mères. Ça ne veut pas dire qu'ils remplacent la mère, mais ils peuvent pour un temps, pour un partage précisément, s'occuper du bébé.
Ou quand la mère a disparu dans un accident ou dans un drame de la vie, le père peut prendre le relais.
parce qu'elle est en train de faire autre chose.
Oui, mais je veux dire, parce qu'on entend parfois un discours qui dit que ce n'est pas possible. Je dis éventuellement, madame disparaît d'un accident d'avion, le père peut aussi couver, il peut aussi protéger, si jamais, arriver à un certain âge, c'est quelque chose qui a existé.
Oui, mais à ce moment-là, vous retombez sur le même problème, c'est-à-dire qu'il va être en tête-à-tête avec l'enfant, il manque un troisième élément.
Oui, c'est ce que Monsieur Laverne nous disait, il faut expliquer, on explique les choses à l'enfant en référence à. On fait toujours appel à une troisième voix pour expliquer son discours, parce qu'il est en référence à une autorité, à un expert, c'est pour créer la troisième personne. Alors, à votre sens, et on conclura sur cela, quel est l'avenir du père au XXIe siècle en France? Vers quoi allons-nous?
Moi, je n'ai pas de données, si vous voulez, statistiques.
Hein, vous avez vu une évolution, peut-être, au sein de votre carrière. À votre avis, on va vers quoi?
Moi, je trouve qu'on va vers quelque chose qui est précisément ce partage, cette co-acceptation des parents pour la responsabilité d'existence de l'enfant. Alors qu'il puisse y avoir en effet des déviations liées à des conflits ou liées à des difficultés personnelles de l'un ou l'autre des parents, ça bien sûr, effectivement. Mais si je considère, si vous voulez, encore une fois, ce qui est objet de visée, l'objet de visée me paraît clairement être celui de conserver la différence entre père et mère, c'est pas la même chose, mais la coprésence. Et la coprésence, elle peut exister même si les parents se sont séparés.
Donc il faut vraiment privilégier et encourager le fait que l'enfant ait accès à ses deux parents.
Absolument. Absolument.
Même s'ils ne s'entendent pas et qu'ils se critiquent l'un l'autre.
Tout à fait. Tout à fait. Et je crois qu'il faut à ce moment-là expliquer aux enfants que les parents, ils peuvent être en effet injustes et que ça ne les empêche pas néanmoins de pouvoir aimer l'enfant.
D'accord. Ça, c'est une donnée importante de votre position, parce qu'on ne l'entend pas forcément tout le temps. Il faut que les deux parents gardent un accès à l'enfant. C'est la CIDE, quelque part, qu'on a signée, qui reprend ces thèmes-là. D'accord. Bon. Sophie Sodemela, vous avez des projets, des ouvrages en préparation, quelque chose, une actualité?
Oh oui, j'ai beaucoup de préparations, effectivement, diverses, à la fois collectives dans mon association et individuelles, donc dans des livres que je peux préparer ou des articles. Le prochain colloque, donc, on est en train de préparer et qui va avoir lieu le 18 juin, porte sur la question de l'identité. L'identité qui est à la fois liée à l'âge, ça c'est un petit peu une conséquence de tout ce qu'on a pu voir à travers les mesures qui ont été prises liées au Covid, et puis aussi beaucoup quand même à des préoccupations qui se font jour autour des personnes âgées. Qu'est-ce que l'âge change dans l'identité? C'est aussi chez le bébé ou chez l'adolescent. Et puis également la revendication identitaire telle qu'on la voit justement dans des conflits internationaux.
D'accord, très voilà. Bien. Voilà. Bon, écoutez madame, merci d'être venue, merci beaucoup de nous avoir donné votre parole durant l'entretien d'une heure à peu près. Écoutez, bonne journée à vous, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Bonjour à tous. Nous sommes mardi 21 juin 2022. Je viens de sortir de l'audience correctionnelle au tribunal judiciaire de il n'y a pas plus tard qu'une demi-heure. Voilà, donc l'audience s'est tenue aujourd'hui à partir de 13h30. Elle a duré un peu plus de 3 heures cet après-midi. Et le délibéré vient d'être rendu il y a une demi-heure environ. Pour être rapide, succinct, les nouvelles ne sont pas du tout encourageantes. Madame a été totalement relaxée du délit de non-représentation d'enfants permanent depuis juillet 2020, c'est-à-dire depuis près de 2 ans. En permanence, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours et la moitié des vacances scolaires. Alors je vais être assez succinct pour vous dire que en réalité le ministère public avait requis, donc le parquet avait requis contre madame une peine d'emprisonnement de 8 mois avec un sursis mis à l'épreuve, sursis probatoire de 24 mois. Mais de façon factuelle, la procureure de la République s'est levée lors de cette audience pour indiquer que si l'affaire était déjà jugée, il ne servait à rien d'audiencer. Alors elle s'est levée, elle a claqué ses dossiers parce qu'elle a constaté vraiment une position partiale de Madame la Présidente. Oui, Madame la Présidente, vous avez eu une attitude tellement partiale que on a inversé les rôles. Et même les avocats ont été assez surpris parce que ils ont même confondu la victime et le prévenu. Hein. Donc moi j'étais victime, mais dans le cadre de votre position, vous aviez une attitude assez particulière qui a été remarquée et constatée de manière factuelle. Donc, on ne va pas s'arrêter là, évidemment, parce que, Madame la Présidente, c'est vous-même qui m'avez jugé en mars 2022 et condamné pour une prévention de 4 mois de non-paiement de pension alimentaire, donc abandon de famille. Et pour cette prévention de 4 mois de non-payé, vous m'avez condamné à 4 mois de prison avec 18 mois de sursis mis à l'épreuve. Comparaison à ça, aujourd'hui vous a été plaidé et soulevé 24 mois de non-représentation d'enfants et vous avez intégralement relaxé madame, sans motivation pour l'heure, parce que la décision n'est pas encore écrite, mais qu'a priori il y avait suffisamment d'éléments retenus par la Cour pour donner droit à madame d'être plus puissante que le juge d'affaires familiales. Parce que c'est ça en réalité qu'on va dénoncer, c'est que un juge aux affaires familiales rend une décision, ordonne un droit de visite, et dans un état de droit, eh bien, on peut, donc dans ce cas de figure, dans cette décision, ne pas respecter la loi en toute impunité. Voilà. Donc, Madame la Présidente, vous avez pris une décision, effectivement, à l'encontre du ministère public, qui avait requis, lui, une peine d'emprisonnement. Le ministère public, dans ce cas de figure, a 10 jours pour relever appel. Et moi et mes conseils allons étudier cette position partiale et continuer à nous battre. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que vous avez permis à madame de ne pas représenter la petite sans socle, sans fondement. Les seuls qui sont de jurisprudence constante aujourd'hui sont les états de danger imminent concernant l'enfant, nul autre. Et donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas eu de justice de rendu. Aujourd'hui, pour moi, vous avez gommé, effacé le délit de non-représentation d'enfant. Et il est hors de question que cela s'arrête ainsi. Vous avez une attitude assez particulière lors de cette audience, c'est-à-dire que vous n'écoutiez pas quand la partie civile, mon conseil, s'expliquait, vous nous interrompiez même quand nous voulions débattre, parler à la juridiction, cela ne représente pas, à mes yeux et aux yeux de beaucoup de monde qui ont pu assister à l'audience, la justice. Voilà. Donc, voilà, je tiens à souligner à la communauté que certes, cette décision est mauvaise aujourd'hui. Néanmoins, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas à me battre, à dénoncer. C'est pas un plaisir, mais c'est un élan de solidarité parce que bon nombre de personnes vivent ce fléau et qu'il est hors de question que des personnes puissent en toute impunité faire justice eux-mêmes et être plus puissants que le juge d'affaires familiales ou autre, ou ces personnes puissent bénéficier de décisions qui là, à mon sens, est injuste. L'affaire était jugée d'avance. Quand je suis arrivé, c'était déjà jugé. La présidente avait un comportement totalement irrespectueux. Et voilà. Donc, le ministère public était, pour le coup, convaincu de la culpabilité de madame, en droit totalement qualifié, mais nous avions un dossier qui était jugé d'avance et soulevé par le ministère public lorsqu'elle s'est réellement levée en disant à la présidente, en ces termes, « Madame, si c'est jugé d'avance, il n'y a pas lieu d'audiencer ». Voilà, donc à très bientôt, bon courage, courage à tous.
Voici maintenant la chanson de la semaine.
Famille, justice, enfance.
Ça marche très bien ta caisse claire, de quoi tu te plains? Allez c'est bon, tu peux retourner à ta place. Ah non, tu vas pas t'y mettre aussi toi? Arrêtez ça tout de suite. Mais pourquoi j'ai été prendre des musiciens aussi pénibles, moi?
Dis-moi, papa, pourquoi? Dis-moi, papa, pourquoi?
C'est ça, foutez-vous de moi, maintenant.
Dis-moi, papa, pourquoi?
Je suis même pas votre père.
Dis-moi, papa, pourquoi?
Ah, j'ai compris.
Dis-moi, papa, pourquoi?
Vous essayez de faire chanter les enfants?
Dis-moi, papa, pourquoi?
Vous y arriverez pas, vous y arriverez pas.
Dis-moi, papa, pourquoi?
Non, c'est moi qui sais faire chanter les enfants.
Dis-moi, papa, pourquoi?
Super. Tu vois bien, ils y arrivent pas.
Dis-moi, papa, pourquoi?
Magnifique.
Dis-moi, papa, pourquoi? Yeah. Dis-moi, papa, pourquoi?
Mais ils y arrivent en plus. Hey. Pour fabriquer du lait au chocolat, est-ce qu'on nourrit les vaches au cacao? Comment elle fait la petite souris, dis-moi, pour transporter tous ces euros? Est-il vrai que Adam et Ève sont nos véritables grands-parents? Lequel des deux a trouvé la fève? Et Ève, est-elle bien grosse? Pourquoi les îles se trouvent-elles toujours au bord de l'eau? Pourquoi on fait la paix après la guerre? La faire avant, ça serait moins idiot. Oh, dis-moi, papa, pourquoi?
Dis-moi, papa, pourquoi?
Dis-moi, papa, pourquoi?
Dis-moi, papa, pourquoi?
Dis-moi, papa, pourquoi tu réponds pas? Dis-moi, papa, un peu plié, est-ce que ça peut plier? On dit que Cléopâtre avait un bonnet, mais on n'a jamais su qu'il avait tricoté. Pourquoi les coiffeurs ont cette façon de parler avec un petit cheveu? Et quand on aperçoit un bord de poisson, est-ce que la reine est toujours au milieu? Pour faire pousser un radis noir, est-ce qu'il faut le planter la nuit? Pourquoi les zèbres du matin au soir ont-ils toujours un vieux pyjama gris? Oh, dis-moi, papa, pourquoi?
Dis-moi, papa, pourquoi?
Dis-moi, papa, pourquoi?
Dis-moi, papa, pourquoi?
Dis-moi, papa, pourquoi tu réponds pas? Hé, à la batterie, c'est James. On peut l'applaudir très fort. Dis-moi, papa, pourquoi?
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 Dis-moi, papa, pourquoi tu réponds?